Bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin. On a la chance d'accueillir Clément Bertrand et Roxane Berger, qui représentent le collectif Les Enfants de Tempête. J'ai promis que je ne ferai pas la faute et que je ne dirai pas collectif agricole, parce que régulièrement, je fais l'erreur. Donc aujourd'hui, je ferai très attention. Donc nous allons échanger avec eux sur le problème du logement, dont on parle beaucoup dans les médias. L'Île-d'Yeu est concernée comme beaucoup de zones touristiques, pour ne pas dire la plupart. Donc c'est un problème qui nous touche au premier plan et qui menace malheureusement la pérennité, tout au moins l'avenir de la vie à l'année sur l'île. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre collectif, hein, qui vous êtes, ce que vous faites, vos objectifs, hein?
Qui sommes-nous? Vaste question. Et bonjour à tous. Le collectif Les Enfants de Tempête s'est monté au mois de mai 2021. Si je ne dis pas de bêtises. Alors, il représente... on a une cinquantaine d'adhérents, si je ne dis pas de bêtises non plus. Le noyau dur du collectif, ce sont des gens qui vivent à l'année à l'Île-d'Yeu, qui soient d'origine de l'Île-d'Yeu ou des arrivants il y a 10, 15 ans ou plus jeunes, qui représentent à peu près toutes les parties de l'économie de l'île. On a des gens qui travaillent dans le secteur touristique, on a des maçons, on a pas mal de gens. On a des secondaires aussi qui sont venus avec nous. Parce que, encore une fois, si on est là aussi, c'est parce qu'on on est certain que la solution, elle vient dans la force et pas dans le combat entre les populations de l'Île-d'Yeu. Puisque quelqu'un qui aime l'Île-d'Yeu et qui est venu un jour et qui s'est arrêté... ne peut pas détester sa population au point de la voir disparaître. Donc on pense qu'on est dans le même bateau. Voilà, on s'est monté parce que justement, l'Île-d'Yeu, c'est un bateau. C'est un bateau et depuis déjà pas mal d'années, la population, les enfants de l'Île-d'Yeu, étaient un peu relégués à la cale. Le Covid et les 30% qu'on a pris en plus sur le foncier ces deux dernières années, les fous à l'eau, clairement. Donc on est dans un moment où... l'avenir de l'Île-d'Yeu, on fait grandir des enfants ici. J'ai grandi ici, j'ai trouvé ça magnifique. Et je pense que l'île, elle trouve ça magnifique aussi d'être peuplée d'enfants, à qui on donne la projection de vivre ici. Ça me paraît impossible qu'on continue dans ce sens qui exclut complètement les enfants et les jeunes générations de l'Île-d'Yeu, de l'avenir de l'Île-d'Yeu. On n'est pas contre le changement, par contre, on veut en faire partie. Et actuellement, on ne peut pas faire partie du changement. Voilà. Donc on va regarder des enfants grandir et dans 20 ans, on va leur dire « c'est fini, cet endroit n'est plus pour vous ». On s'est monté parce qu'on n'est pas d'accord avec cette idée-là. Et je pense que tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée-là.
Roxane, est-ce que tu peux nous faire... Tu es très chiffre, entre autres. Elle est plein de choses, mais elle est très chiffre, entre autres. Et est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux de la situation et nous dire, depuis un an donc, que vous existez, est-ce que vous avez vu une amélioration? Est-ce que la situation se dégrade? Enfin, qu'en est-il? Et éventuellement, nous faire part de témoignages que vous avez reçus, puisque vous avez finalement des contacts avec beaucoup de gens, des habitants, des organismes, la collectivité locale, bien sûr, des institutions, etc.
Alors, ça va être beaucoup plus pragmatique que Clément. La situation, où est-ce qu'on en est? Alors, je vais vous donner quelques chiffres qui vont certainement vous parler. Déjà, il faut savoir qu'à l'Île-d'Yeu, on a 6000 maisons. Voilà, 6000 résidences, 6000 logements. Parmi ces logements, on compte 60%, on comptait en 2019 60% de résidences secondaires. C'est un chiffre qui monte à 22% pour la Vendée et 9% en France. On a également 144 logements vacants. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la valeur du foncier et de l'immobilier. On est sur l'année qui vient de s'écouler, donc si on compte d'avril 2021 à avril 2022, on est sur un prix médian de vente de 427 000 euros. Ça représente à peu près un peu plus de 5 000 euros le mètre carré. Et si on regarde la situation sur le début de l'année 2022, sachant que nos chiffres s'arrêtent en mars, on arrive à 5 840 euros le mètre carré. Quand on regarde les courbes en fait, du prix du foncier et de l'immobilier à l'Île-d'Yeu, donc avant Covid, on était sur une courbe relativement montante, assez fluctuante, toujours dans une situation où on sait que la valeur immobilière à Lille-Dieu, c'est quand même une valeur assez sûre. Hein. C'est quand même un prix qui augmente. Et le Covid a eu pour effet d'augmenter très très fort cette courbe de prix. On a mesuré avec les données des divisions des valeurs foncières et les données notariales qu'on a pris une augmentation de 34,5% sur le prix de l'immobilier en l'espace de 2 ans. Alors, ce qui résulte de cette situation, malheureusement, c'est que l'immobilier est devenu complètement inaccessible aux habitants permanents qui n'ont absolument pas les moyens d'acheter une maison de 85 mètres carrés à 427 000 euros, vous vous en doutez. Cette situation, elle est due à plusieurs choses. Donc, il y a le côté très attractif de Lille. Enfin, Lille-Dieu est très convoitée par des investisseurs potentiels ou des personnes qui veulent investir dans la pierre. Il y a très peu d'offres, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de maisons à vendre. Hein, ça, voilà. Et bah, forcément, le jeu de l'offre et de la demande fait que ça tire tous les prix vers le haut. Sur le marché du locatif, on n'est pas beaucoup mieux, puisque comme on est quand même une destination touristique, c'est beaucoup plus intéressant de louer à la saison que de louer à l'année, on ne va pas se mentir. Et donc, on n'a quasiment aucune offre de logement à louer à l'année sur le marché. Tu parlais des témoignages. On a lancé une enquête l'année dernière pour savoir un petit peu comment les gens se plaçaient, quelle était leur situation, est-ce qu'il y avait des situations d'urgence. Malheureusement, il y a énormément de familles qui sont dans des situations très compliquées, voire qui sont déjà parties, faute de logement. À l'époque de l'enquête qu'on a menée pendant un mois, on avait 70 familles qui étaient en recherche de logements actifs, qui n'avaient pas pu visiter un seul bien en 6 mois pour la plupart. Et on avait 22 familles qui envisageaient en septembre dernier de quitter Lille s'ils ne trouvaient pas une solution dans les 6 mois à venir. La situation ne s'est pas améliorée, déjà parce que les prix n'arrêtent pas d'augmenter, parce qu'il y a de moins en moins de biens disponibles à la location ou à la vente, voire plus du tout en tout cas à la vente en matière d'accessibilité. Donc la situation, elle est dramatique, malheureusement. Je ne sais pas, Clément, si tu voulais rajouter quelque chose.
C'est-à-dire qu'on a, encore une fois, quand je dis qu'on est passé de la difficulté d'habiter ici, qui était le cas déjà depuis, moi j'ai 40 ans, j'ai toujours entendu que les enfants ne pourront pas acheter, donc c'est pas nouveau. C'est le Covid qui nous a fait passer d'une difficulté à une impossibilité. Les solutions... La jeunesse qui a construit ces dernières années construisait sur des terrains. Il y avait énormément d'entraide. Tu fais venir le pote maçon, le pote menuisier, tout ça, et tu construis ta maison. Mais même cette solution qui restait d'accession à la propriété n'est absolument impossible vu le prix du terrain et vu le prix des matériaux qui a augmenté. Donc il n'y a plus aucune solution. Quelqu'un qui s'installe ici ou quelqu'un qui veut rester ici aujourd'hui, la seule solution d'habiter finalement, ça va être d'attendre d'être... d'avancer dans la liste d'attente des logements sociaux, où ça va être de l'accession à la propriété par divers chantiers de lotissement. Mais je veux dire, c'est très fermé. Ce qui manque, c'est la projection. Parce que si les gens n'ont pas de projection ici, ils partiront. Ils partiront et Lille-Dieu perd tout, quoi. Si Lille-Dieu perd sa population, Lille-Dieu perd son âme, Lille-Dieu perd son histoire, son patrimoine, sa culture. Et j'imagine qu'on trouverait tout ça très dommage, voilà.
Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé non plus. Parmi les impacts, les impacts sont très nombreux. Hein. Y en a un que vous devez certainement mesurer là cet été, c'est que les sociétés, les entreprises ont énormément de mal aussi à trouver la main-d'œuvre, notamment dans tout ce qui est touristique, tout ce qui est saisonnier, parce que faute de logement pour pouvoir héberger leurs saisonniers. Alors, il y a une initiative de la mairie qui a vu le jour cet été, là, qu'on peut saluer, hein, qui est la création d'une sorte d'auberge de jeunesse. Je veux pas me tromper dans le terme. Donc, ils ont prévu... Enfin, ça existe, là. Il y a 14 logements, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a des élus dans le public. Donc, je dis pas de bêtises sur le 14 ? C'est ça. Donc 14 chambres qui sont mises à la disposition des entreprises pour loger des salariés ou des saisonniers. Donc ça, c'est une initiative tout à fait saluable. Néanmoins, ce sera une solution qui ne sera pas suffisante parce que à l'instant T, là, c'est bien pour cet été, mais plus on va aller dans le temps, si on ne résout pas cette crise du logement, plus on aura du mal à loger les gens qui, bah, qui créent le service, qui font que cette destination est accueillante, qui font que vous êtes servi au restaurant, que vous allez au restaurant, qui font que on vous apprend à l'école quand vous êtes un enfant, etc., etc.
Donc, je répète la question parce qu'on ne vous entend pas. On est, pour mémoire, on enregistre cette rencontre. Donc, si vous avez des questions, bon, on aura des questions à la fin. Hein. Vous pourrez tous poser vos questions d'ici environ un quart d'heure. N'hésitez pas. Tout est enregistré. Donc, il faut effectivement qu'on puisse les entendre. Oui, vous avez pas mal d'informations. On ne l'a pas dit, mais vous travaillez avec beaucoup d'interlocuteurs. Vous pouvez nous en dire plus hein.
Alors, pour répondre à la question sur le parc locatif social, si j'ai bien compris, donc il y a 111 logements dans le parc locatif social Ilet. Ça représente 5% des résidences principales. Donc, vu qu'on était dans les moyennes départementales et nationales, la moyenne en Vendée, elle est de 8,2%. La moyenne française est de 17,6%. Donc, on est bien en dessous. On a 55 demandes en cours, si je ne dis pas de bêtises, au 17 juillet 2022. Il y a eu 3 attributions au cours de l'année 2021 et le délai moyen d'attribution est de 4 ans, 49 mois. Et les organismes avec lesquels on discute, bah, c'est à peu près tous les organismes qui sont susceptibles d'avoir des pistes de solutions ou des chiffres ou un intérêt sur le logement, que ce soit bien sûr au niveau de la mairie, la DIL. Et tous les organismes nationaux qui s'intéressent à cette problématique.
Alors, depuis un an donc, que vous travaillez sur ce sujet-là, vous avez commencé à collecter des pistes de solutions en observant ce qui se passe dans d'autres communes, en discutant avec des interlocuteurs donc, très variés. Qu'est-ce que vous avez déjà identifié comme solution pour l'instant qui pourrait s'appliquer ou tout au moins... Il y en a qui pourraient s'appliquer pour plein de territoires, mais qui malheureusement ne s'appliqueront peut-être pas pour l'Île-Dieu, parce que l'Île-Dieu ne s'y prête pas. Je pense notamment à la zone de tension.
Alors, avant de parler des solutions, on va déjà commencer par poser un postulat hyper important, parce qu'on lit souvent, quand on parle de problématiques de logement, notamment sur les réseaux sociaux, il y a toujours quelqu'un pour dire ouais, « c'est la faute des Ilets qui ont vendu ». Il y a 40 ans, ou alors on peut avoir aussi c'est la faute des secondaires parce qu'ils sont trop nombreux. Ouais, ben bref. Je pense qu'il est très très important, tous dans le combat qu'on veut mener, de se dire qu'on se fiche globalement de savoir si les gens font fait partie du problème, si leurs parents font partie du problème, si leurs grands-parents font partie du problème. Nous, ce qui est intéressant selon nous, c'est de se dire qu'on peut tous faire partie de la solution. C'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus constructif. Et de toute façon, à part faire l'histoire, vendre des maisons au prix du marché, ça se fait partout. Et c'est normal. Et tout le monde ferait la même chose, quasiment tout le monde. Acheter une maison pour venir passer ses vacances, quand c'est pas de l'investissement mercantile, hein, je précise bien, mais c'est assez logique aussi. Enfin, je veux dire, y a pas de... Voilà, on va pas chercher les responsables et on compte sur vous si vous, un jour, vous commentez sur les réseaux sociaux pour éviter de sortir ce genre d'argument parce que sinon, on va jamais y arriver. Ensuite, sur les solutions en elles-mêmes, il y a d'abord les solutions dont on veut pas. actuellement... Tout ce qui semble sortir des institutions, que ce soit assemblée, gouvernement, etc., comme idée, comme piste de solution, c'est d'abord la surtaxation des résidences secondaires. Ça a été entendu plusieurs fois. Il y a plusieurs amendements, notamment, qui ont été déposés la semaine dernière à l'Assemblée dans ce sens-là. Et le député de Vendée, pour ne pas le citer, Stéphane Buchou, avait dit pendant la campagne des dernières élections qu'il allait mettre en place une contribution vertueuse des résidences secondaires. Alors, en soi, imaginer une participation des résidences secondaires qui soit indexée sur leur niveau de vie, très bien. C'est-à-dire que vous gagnez 300 euros par mois, vous payez 3 euros, OK. Vous gagnez 30 000 euros par mois, vous payez 3 000 euros, OK. Mais dans l'état actuel, de la manière dont fonctionne actuellement la taxe sur les résidences secondaires, On trouve ça pas forcément très judicieux de compter là-dessus, enfin que là-dessus, parce que ça va avoir pour effet de gentrifier énormément de la population secondaire. On considère que c'est pas sain du tout, d'autant que l'île-Dieu, elle est quand même. Elle a ici des résidences secondaires historiques qui sont des. Enfin, ou historiques ou même récents, hein, qui sont des amoureux du territoire. Et qui participe à son visage, à son avenir. Et on tient beaucoup à ces personnes-là. et en fait, si jamais on surtaxe trop les résidences secondaires, il va se passer trois choses. Soit les gens pourront plus payer la taxe et ils vont vendre. Ils vont vendre au prix du marché, ça reviendra pas dans le giron des habitants permanents. Soit ils vont mettre en location saisonnière leurs biens pour payer leurs taxes de résidence secondaire. Et ce n'est pas spécialement intéressant parce que ça ne fait qu'augmenter la fréquentation touristique. Soit ils ont les moyens de payer et dans ce cas-là, ils vont payer et tant mieux pour eux. Mais enfin, les effets de cette solution, pour nous, ils sont extrêmement dangereux. La deuxième chose dont il est beaucoup question actuellement, ça a fait l'objet d'une question au gouvernement par un député des Pays Basques la semaine dernière, notamment, qui demandait quelles étaient les solutions envisagées par le gouvernement pour résoudre cette crise du logement, qui touche tout le littoral, hein, pas spécifiquement que les îles. La réponse du ministre du Logement, donc Olivier Klein, était assez claire. C'était qu'il avait rencontré les offices HLM et qu'ils allaient construire massivement des logements sociaux. Ça a été également une réaction d'Emmanuel Macron pendant la campagne, qui avait été interrogé sur ce sujet-là, qui avait dit qu'ils envisageaient de créer une nouvelle classe de logement social, qui serait du logement social intermédiaire. Alors, pourquoi est-ce que cette solution nous semble pas pertinente pour, en tout cas pour le territoire de l'île-Dieu, mais même de manière plus globale, hein, créer une classe de nouveaux pauvres, parce que en gros c'est ce que ça revient à faire. Hein, ça ne résout pas le problème dans le temps, à moyen et long terme, il faudra juste recréer de nouveaux, enfin étendre encore cette nouvelle classe de logements sociaux intermédiaires. Qui plus est, il faut pouvoir construire ces logements intermédiaires, enfin ces logements sociaux. Au prix du foncier actuellement, il ne faut pas se leurrer, hein, ça va devenir très compliqué pour les mairies des îles de préempter. Si les terrains leur coûtent cher, il va falloir aller vers une surdensification de ces lotissements sociaux. Et on va vous la faire courte, hein, ce qui va se produire, c'est que les habitants, les jeunes générations actuellement, si la seule solution qu'ils ont, c'est d'aller d'habiter dans des logements sociaux, dans des lotissements sociaux surdensifiés, à la gueule, ce qu'on appelle les parcs à îles ici, et qu'on n'aimerait pas trop voir se développer, ça va créer un sentiment de mal-être prégnant, de jalousie qui sera tout à fait légitime par rapport aux terrains de 6000 m² qui les entoureront. Et ce que les gens viennent chercher ici d'accueil, de bien vivre, etc., va se perdre. C'est sûr. Donc ça fait partie des solutions dont on ne veut pas. Je ne sais pas si tu veux compléter quelque chose là-dessus.
Non, mais on entend toujours la construction comme étant la solution miracle. Bon, de toute façon, il n'y a pas de solution miracle. C'est tout un bouquet de solutions qui fera qu'on avancera un petit peu le débat. Mais la construction en elle-même, je ne sais pas si c'est tellement la solution miracle que ça. Enfin, il y a un chiffre de l'INSEE qui est assez aberrant quand même. 3,5% des ménages français possèdent la moitié du parc locatif national. Donc peut-être il faudrait aussi commencer à imaginer réserver la construction à des primo-accédants. Ça me paraîtrait déjà un bon début de solution. Voilà.
Et donc dans les solutions qui sont envisageables, qui existent sur d'autres territoires, qu'est-ce que vous avez identifié ?
Alors, on y vient.
Elle parle pas mal, beaucoup.
Je vais essayer de moins parler alors. Donc on le disait au début, on fait tous partie de la solution, chacun a son rôle à jouer. Alors, on va commencer par les autorités, puisqu'il y a déjà certaines choses qui peuvent être mises en place avec les leviers législatifs actuels, parce que vous allez voir à la fin de ma diatribe que en fait on manque de leviers législatifs et il va falloir aussi travailler là-dessus. Mais avec les leviers législatifs actuels, la première chose donc qu'on peut imaginer, c'est de travailler sur le parc locatif à l'année en limitant les locations saisonnières, le nombre de meublés touristiques. Alors limitant, c'est un gros mot. Il y a plusieurs villes qui expérimentent des choses à ce sujet-là, notamment c'était les premiers à le faire, la ville de Saint-Malo, les Sables d'Olonne s'y mettent aussi. Enfin, il y a pas mal de communes, notamment du littoral, qui expérimentent ça. En gros, ce qu'ils demandent aux propriétaires de locations saisonnières qui ne sont pas des propriétaires de résidences principales, qui loueraient moins de 120 jours par an, parce que eux, ils sortent complètement du dispositif, ils ne comptent pas. Mais en tout cas, pour tous les meublés touristiques qui appartiendraient à des résidences secondaires ou à des ou qui soient, enfin, qui soient pas du logement principal, ou qui soient logés plus de 120, loués plus de 120 jours par an, le principe est de devoir obtenir déjà un numéro d'enregistrement auprès de la mairie, et ensuite d'avoir l'autorisation de louer, dans le sens où la mairie de Saint-Malo, ils ont instauré des quotas. Ça veut dire qu'ils ont divisé leur ville en quartiers, et puis ils ont dit, ben, dans le quartier Intramuros, par exemple, c'est 12,5% de meublés touristiques et pas plus. Donc ben, quand on a atteint les 12,5%, les prochains qui veulent avoir le droit de faire la location touristique, bah, soit ils passent en statut professionnel, ça c'est encore autre chose, soit ils attendent qu'une place se libère. C'est un vrai débat pour l'île-lieu parce que ça recréerait, ça transformerait de la location saisonnière en logement à l'année. Et puis parce que si ça a un impact sur la surfréquentation touristique, parce que ce qui dit un nombre d'hébergements déterminé fait qu'au bout d'un moment, bah, on est sûr qu'on n'aura pas non plus une population touristique toujours grandissante. C'est une question, je ne fais pas de bêtises en disant, qui réfléchit actuellement au niveau de la mairie. Donc voilà, c'est un dossier qui est en cours de réflexion. Voilà, je ne m'engage pas, hein, c'est bon. Il y a aussi une autre question qui peut s'envisager dès à présent, c'est de réfléchir à cette fameuse fréquentation touristique, dans le sens où plus un territoire est fréquenté, c'est un truc bête hein, ce que je vais dire, mais bon, je vais quand même le dire, plus un territoire est fréquenté, plus il est convoité, plus il y a de gens qui viennent et qui se disent ah, bah, ça peut être sympa de venir acheter un bien à mettre en location saisonnière ici, ou d'acheter un investissement, ou etc. etc. Plus un territoire est fréquenté, plus les prix du foncier de l'immobilier augmentent. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport du Sénat très sérieux. Donc il faut se poser la question à un moment de savoir s'il ne faut pas limiter cette fréquentation touristique. Là encore, j'ai encore pris le mot limiter comme un gros mot. Réguler cette fréquentation touristique, à savoir se demander quelle est la capacité de charge du territoire, combien de touristes pouvons-nous accueillir, est-ce que quand on dépasse un certain seuil de fréquentation touristique, il ne faut pas limiter le nombre de passages dans les bateaux, etc., etc. Alors, il y a un texte de loi qui permettrait de le faire, mais il va falloir racasser quand même au niveau des autorités de l'État, qui est la loi Climat et Résilience, qui permet de limiter l'accession à un territoire, à un espace naturel protégé. Bon, on a des petites difficultés, c'est-à-dire que notre port d'attache n'est pas dans une zone naturelle protégée à proprement parler. Mais néanmoins, c'est un levier qui pourrait être exploité si demain, l'île-lieu décidait de limiter sa fréquentation touristique. Et qui dit moins de fréquentation touristique, dit aussi moins de gens qui veulent y loger de manière temporaire. Et assez logiquement, ça permet de remettre des biens qui étaient en location saisonnière sur le marché de la location à l'année. Parmi les autres pistes, là je suis désolée, je vais reprendre mes notes pour ne pas dire de bêtises. Il y a le fait d'alerter les pouvoirs publics. Alors ça, c'est à tout le monde de le faire, à tous les niveaux. Les associations, les citoyens, mais également la mairie, les personnes engagées à tous les niveaux, que ce soit département, région, etc., alerter les pouvoirs publics sur la situation de l'île-lieu qui devient absolument intenable et racasser jusqu'à ce qu'on se décide à nous entendre. Parce qu'actuellement, le territoire de l'île-lieu, pour vous dire, on est classé... Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des zones tendues. Voilà. Alors, les zones tendues, c'est une sorte d'échelle de valeur qui dit si tu es en zone... cette commune est très tendue d'un point de vue de logement, moyennement tendue, un petit peu tendue, pas du tout tendue. Bon, bah, l'île-lieu, on est en zone B2, donc on n'est pas considéré comme un territoire qui soit très tendu en matière de logement, ce qui est un non-sens. C'est le cas de la quasi-totalité des îles du Ponant. Et donc, bah, ça implique de demander une révision de notre classement. Alors, c'est une démarche qui a été également entreprise, qui pour l'instant ne porte pas ses fruits, mais il va falloir redemander. Et il va falloir demander de manière plus forte, parce que... pour la petite histoire, la ville de Chamonix n'était pas non plus en zone tendue. Ils rencontrent une situation de logement un peu similaire, comme à peu près tous les territoires de montagne qui sont des stations. À force de demander, ils l'ont obtenu.
À force de faire du lobbying, peut-être, tout voilà. Simplement.
Mais je veux dire, il ne faut absolument pas renoncer au fait d'obtenir un classement, et parce que ce classement en zone tendue, il permet d'avoir accès à certains dispositifs plutôt intéressants. Qui peuvent ouvrir de nouvelles solutions. Donc là, il va falloir faire un sacré lobbying politique et on compte sur nos élus pour aller redemander ce nouveau classement. Il y a après plein de petites solutions qui peuvent être développées sur le territoire. Il y a plein d'initiatives qui ont été imaginées sur le continent qui peuvent nous inspirer. Il y a notamment la ville de Perros-Guirec qui a développé un dispositif qui s'appelle Un toit pour un emploi ou Un toit un emploi. Ça, c'est des propriétaires qui ont des chambres inexploitées chez eux, des annexes, etc., et qui passent en fait, enfin qui mettent ces biens à la disposition de la mairie, qui elle trouve des travailleurs saisonniers qui cherchent un logement. Et en fait, la mairie s'occupe de faire le pont entre le travailleur qui cherche des logements et des propriétaires qui sont capables de les accueillir. Voilà, inciter les propriétaires à louer à l'année. Alors, est-ce qu'il faut mettre en place une aide? Est-ce qu'il faut faire des campagnes de sensibilisation? Certainement. Alors ça, c'était concernant la mairie. Pareil, réaliser une étude sur le gisement foncier, se projeter dans l'avenir, à savoir qu'est-ce qui pourrait être un jour préemptable ou pas, créer un PLH, etc., etc. Il y a pas mal de choses qui ont été amorcées. Il y en a d'autres qui, espérons-le, verront le jour. Les propriétaires peuvent également jouer leur rôle en privilégiant la location à l'année plutôt que la location saisonnière. En contactant en priorité la mairie quand ils envisagent de vendre un bien d'intérêt. Alors, quand on parle des biens d'intérêt, c'est un propriétaire qui veut vendre un terrain de 3 500 m². Ce serait absolument merveilleux s'il commençait par prévenir la mairie de son intention de vendre. Parce que la préemption, c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place et qui peut être attaqué si elle est faite de manière trop pressée. Et donc, c'est bien de tout de suite envisager de dire bon, bah, ces 3 500 m² peuvent servir à faire un petit lotissement, ils peuvent revenir dans, dans les terrains publics. Donc, voilà, il faut y penser. Adhérer à différents dispositifs qui existent sur le marché, louer abordable, les propriétaires solidaires, la cohabitation intergénérationnelle. Je vous passe tout ça parce que ça, c'est des choses dont on entend déjà pas mal parler au niveau national. Envisager même de créer des petits logements à mettre en location à l'année ou voire à vendre à prix abordable sur des terrains inexploités ou voilà, au bout d'un terrain de 6000 mètres carrés, se dire tiens, on pourrait peut-être faire un petit bien qu'on pourrait mettre en location à l'année, pourquoi pas. Les professionnels de l'immobilier ont un rôle énorme à jouer également, notamment le notaire, à qui nous aimerions demander de manière très officielle d'arrêter de faire de l'immobilier interactif. L'immobilier interactif, c'est de la vente aux enchères, hein. C'est voilà, vendre au plus offrant. Il va falloir que quelqu'un à un moment lui dise que ce serait bien d'arrêter, parce que ça fait du mal à ce territoire en termes de prix du marché, ça tire les prix du marché vers le haut. Un bien qui se serait vendu à 350 000 et qui part à 600 000, ça n'aide pas. Éviter également l'envoi de lettres aux propriétaires, les encourageant à vendre au plus offrant. Alors ça, c'est, on ne citera personne, hein, mais on a reçu dans nos boîtes aux lettres récemment des petites cartes postales nous incitant à vendre parce qu'il y avait plein d'acheteurs qui étaient intéressés. Alors ces lettres, elles arrivent aussi à des locataires qui sont très inquiets de leur avenir, qui sont un petit peu déboussolés de voir qu'on incite leur propriétaire à vendre le bien dans lequel ils louent à l'année, difficilement. Donc ça, on peut arrêter aussi. Développer un pôle de location à l'année. Il n'y a aucune agence du territoire qui propose de la location à l'année, ce qui n'aide pas les propriétaires qui souhaiteraient louer à l'année, parce que du coup, ils sont un peu obligés de se débrouiller tout seuls. Des fois, ça peut rassurer d'avoir une agence qui s'occupe de louer ça. Alors, le notaire fait un peu de location à l'année, mais c'est vrai que quand on va sur le continent, qu'on voit, dans une agence, généralement, il y a toujours des biens à louer à l'année. Quand on arrive à l'Île-Dieu, généralement, on hallucine, on se dit, mais ils sont où les biens à louer à l'année? Non, ça n'existe pas pour l'instant. Donc ça peut s'envisager. Parmi les professionnels de l'immobilier qui vont devoir aussi mettre la main à la pâte, en tout cas, qu'on encourage assez vivement à le faire, c'est sur les coûts de construction. Coûts de construction, les coûts de matériaux, ça pourrait être très très intéressant d'imaginer que les professionnels du bâtiment se montent en coopérative pour réfléchir à des solutions pour baisser le coût de construction. On atteint ici un coût de construction qui est entre 3 500 et 4 000 euros le mètre carré. On parle du prix de construction. C'est pour ça que Clément tout à l'heure vous disait que même l'autoconstruction, ça devient compliqué. Alors il y a un surcoût, hein, c'est sûr, de faire venir les matériaux sur une île, ça engendre un surcoût. De travailler dans la construction à l'île-Dieu, il y a certainement un surcoût aussi. De là à arriver à 4 000 euros le mètre carré, je pense qu'il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. En tout cas, ça mériterait vraiment de réfléchir à comment baisser ce coût de construction, voire baisser le coût d'import des matériaux. Voilà. Et puis après, y a des solutions qui n'existent pas encore et qui sont les plus importantes. Voilà. Parce que là, tout ce qu'on vous a dit, c'est des petites solutions. Et puis, la plus importante d'entre elles, ça va être de pouvoir redonner le pouvoir aux habitants permanents d'accéder à l'achat, de recréer du logement abordable sur un territoire qui ne l'est plus. Et ça, il n'y a pas de secret, ça n'existe pour l'instant pas. Néanmoins, il y a des pistes. Notamment la loi de 3DS, qui est une loi je vais l'écorcher parce qu'elle n'est pas évidente, qui date de l'année dernière, différenciation, simplification, 3 mots qui commencent par un D et simplification, qui permet en fait d'imaginer des évolutions législatives pour des territoires particuliers, enfin confrontés à des situations particulières. Dans le cadre de cette loi 3DS, les élus des îles ont obtenu quelque chose de précieux, qui est la reconnaissance de la spécificité des territoires insulaires, des communes insulaires. Donc au titre de cette reconnaissance, on pourrait très bien imaginer demander une proposition d'expérimentation propre aux îles sur cette problématique de logement. Ce qu'on veut demander, il faut l'inventer. Peut-être que quelqu'un autour de cette table a la solution. En s'y mettant tous, je suis sûre qu'on peut trouver plein d'idées. Alors, est-ce que c'est un statut de résident permanent? Est-ce que c'est un bouclier antispéculatif qui dit que quand vous achetez votre maison à 300 000 l'année N, elle peut prendre 3% tous les ans, mais pas plus, et que si vous la vendez au bout de 10 ans, vous avez un plafond au-dessus duquel vous ne pouvez pas vendre. Est-ce que c'est des zones dédiées à l'habitat permanent dans un PLU? Est-ce que c'est... Enfin, voilà. Là, il faudra réfléchir, mais il est impératif que les mairies des îles se mettent d'accord pour demander une expérimentation sur les territoires des îles du Ponant pour faire en sorte qu'on recrée du logement abordable pour les résidents permanents. Et je vais passer le micro à Clément, parce que j'ai beaucoup trop parlé. Il y a peut-être d'autres idées.
On avait aussi imaginé ce grand mot, mais toutes les îles du Ponant, de toute façon, dépassent ces 50% de résidences secondaires. On se demandait quel était le pourcentage qui était censé en fait être un mur d'alerte, quoi. Est-ce qu'on peut aller sur un territoire clos à 70, 80, 90? Enfin, à l'Île-Dieu, nous avons dépassé allègrement les 60%, puisque nous étions à 60% en 2018, avant Covid. Vu la frénésie qui a eu lieu depuis 3 ans, on peut imaginer être environ dans les 65%. Voilà, donc on se posait vraiment cette question. C'est quoi le chiffre qui est flippant? À quel moment on se dit ça va trop loin? C'est 70, c'est 80, c'est 9 maisons fermées sur 10, 10 mois dans l'année. Voilà, donc c'est pas une vilainie de parler de ça. C'est juste se dire peut-être dans ces territoires clos, il faut redonner à l'habitat son essence même, qui est quand même d'abriter des gens qui y vivent et qui y travaillent avant tout. Donc aujourd'hui, on est dans ces difficultés-là. Il faut peut-être aussi reparler de l'essence première d'une maison. Et moi, je pense que, à titre personnel, le quota de résidence secondaire est dit qu'à basculer de 25, 75, 25, 25 résidents principaux, 75 secondaires, en l'espace de quelques années, ils ont fait la culbute inverse. Vous allez me dire, c'est une petite île, 50 maisons vendues, et ça se renverse. Mais on voit clairement qu'en plus, aujourd'hui, nous ne sommes plus forcément courtisés par des gens qui sont amoureux de l'île. Nous sommes courtisés par des gens qui viennent placer de l'argent, investir. Il y a une agence de Groix qui nous disait qu'ils avaient des coups de fil de gens qui n'avaient rien trouvé à Belle-Île, donc qui contactaient Groix. Bon, on imagine qu'ils ont de l'amour pour le territoire, les gens qui font ça, clairement. Donc voilà, il faut se rappeler pourquoi on est venu à l'île-Dieu, pourquoi on y habite. Et il faut donner de la projection à fond. Et puis de l'espérance aux jeunes générations. Mais ça, c'est très large et c'est beaucoup plus large que le problème du logement.
Et je vais juste rajouter un petit truc, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la production de lotissements, de manière un peu véhémente. Alors, c'est important de produire du lotissement, hein, attention. Par contre, il faut qu'on soit très attentif à la manière dont on le construit, où on le construit, parce que... Déjà, la production de logements, il ne faut pas qu'elle se fasse au détriment de terres agricoles. Bon, ça, c'est plutôt évident. Ensuite, il faut que ces lotissements soient pensés comme des endroits habitables longtemps. Parce que selon toute... on va se projeter dans 10 ou 20 ans. C'est pas dit qu'on ait trouvé la solution pour que les gens puissent racheter des maisons historiques. Donc, il ne faut pas faire l'erreur de se dire... parce que là, on est dans une situation d'urgence absolue. Construisons vite des choses très denses pour loger les gens. Et puis, ça va durer un petit temps. Puis après, ils pourront acheter autre chose. Donc, il faut qu'on soit malin dans notre manière de créer les solutions. Parce que après-guerre, ils ont fait les mêmes erreurs. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont créé des barres d'immeubles et ils ont mis tout le monde dedans en se disant on verra bien après, et puis quelques dizaines d'années après, on se retrouve avec des ghettos qui sont compliqués à vivre, et ces personnes-là n'arrivent pas à en sortir. Donc il faut vraiment être très attentif dans notre capacité à créer des solutions pérennes. Les lotissements, ils doivent respecter des pourcentages d'espaces verts. Ils doivent être pensés en se disant les gens qui rentrent dans ces lotissements vont peut-être y rester 40 ans. Il faut qu'il y ait une ambiance, il faut qu'il y ait une bonne ambiance de quartier. Il faut que ce soit pensé comme des choses vraiment vivables dans le temps, de manière à se dire que les gens qui vont y habiter vont y être bien. Et ne vont pas être J'aime pas ce mot jaloux, je cherche un autre mot depuis le début.
On va pas créer des tensions, je sais pas, marmotte, on avait dit marmotte, donc marmotte. Oui, à cela, c'est très vrai, il y a une responsabilité immense aujourd'hui de ce qui va se faire à l'instant T. Est-ce qu'on met un pansement sur un cancer pour dire c'est bon, tout va bien? En fait, ce qu'il faut, c'est imaginer... il faut une vision sur du long terme. Il faut imaginer comment l'île est dans 20 ans, par qui elle sera habitée, comment, quels seront ses métiers. Parce que là, tout ce qu'on est en train de faire, c'est courber absolument tout vers le même endroit. Nos enfants ont une économie qui va être complètement courbée. Je veux dire, ils vont pas avoir beaucoup de choix s'ils veulent rester habités ici, en fait. Plus on va laisser ce monstre foncier grandir, plus on va courber leur destinée. Alors, encore une fois, peut-être qu'ils ont envie de se tirer, c'est très bien, tous les enfants de l'île ont des envies de se tirer souvent, mais nous, on a eu la chance de pouvoir revenir quand on a eu l'envie de revenir et d'y fonder une famille, parce qu'on pouvait encore s'y projeter. Donc, encore une fois, j'utilise ce mot-là, parce que on peut construire des baraques, s'il n'y a pas de projection, les baraques, elles seront vides, de toute façon, c'est sûr.
Alors moi, ce que je vous propose, vous avez évoqué plein de solutions, vous les avez pas toutes passées en revue, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup auxquels on peut réfléchir, beaucoup qui sont freinés par des freins législatifs, hein, parce que les pouvoirs publics, malheureusement, n'ont pas encore pris le problème à bras-le-corps. Et vous l'avez dit, hein, c'est compliqué de faire bouger tout ça là-haut. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de poser les questions. Vous avez peut-être des idées, ou de nous faire part de vos idées si vous en avez. Voilà, j'ouvre la discussion. Est-ce que d'ores et déjà, il y a des questions?
Oui, vous parliez de moyens législatifs. Et il y a un moyen qui est très ancien. Je ne sais pas s'il a été utilisé à l'IDIE. Ça s'appelle les ENS. Ça vous dit quelque chose?
Absolument pas. Éclairez-nous.
Ce sont les espaces naturels sensibles. Alors normalement, ça donne beaucoup de pouvoir, puisque ça permet aux mairies de préempter, mais à des montants qui sont relativement... Mais il faut que les choses se soient faites depuis déjà un certain temps. On ne peut pas démarrer aujourd'hui, parce que ça prend une dizaine d'années minimum pour essayer de mettre ça en place. Ça ne vous dit rien du tout, ça?
Je passe le micro... à des gens capables de répondre à cette question.
Bonjour, je m'appelle Caro Chao, je suis première adjointe et conseillère départementale. Et effectivement, les ENS, c'est les espaces naturels sensibles. En fait, les ENS sont gérés par le département. Donc, en fait, c'est une zone... Pardon. Les ENS sont gérés par le département, par le conseil départemental. Et en fait, c'est une zone de protection. Là, l'île-Dieu, en fait, est en zone protégée, toute la côte sauvage, tout ça, ça fait partie du territoire départemental. Mais par contre, il n'y a aucune construction qui peuvent se mettre sur les ENS. C'est bien de la protection de l'environnement. Ça n'a rien à voir avec le logement, l'habitat. Justement, c'est pour préserver d'une construction. Et c'est pour ça qu'on n'en a pas sur tout ce qui est côte sauvage. Heureusement qu'on a fait ça. C'est le conservatoire du littoral et aussi les espaces naturels sensibles qui protègent notre île.
Oui, donc c'est de la préemption de zones naturelles.
Voilà, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec le logement.
Merci.
Bonjour, Dominique, je viens de Bretagne. Je connais aussi ce sujet-là. Merci d'abord, Roxane, pour tout ce que vous nous avez appris. Merci, Clément, pour votre émotion.
Merci.
Merci, parce que vous avez parlé des générations futures. Merci, merci pour elles. Et puis, et merci de ne l'avoir pas opposé les plus riches et puis parce qu'on a besoin de tout le monde. Et puis... En revanche, en parlant avec un jeune paysan hier, il m'a parlé d'un projet de super riches, là, cette fois-ci, qui veulent justement que cette île soit un parc à super riches dans les années futures. Et on sait que les personnes, la canicule, etc., impose aux personnes qui allaient habituellement en Côte d'Azur de monter. Et puis voilà. Et donc, apparemment, il y aurait une rumeur. Je ne sais pas si elle est fondée. J'aimerais beaucoup qu'on me dise si c'est vrai ou pas. Mais que des personnes super riches sont en train d'investir un peu partout sur l'île, justement, pour en faire un parc à super riches. Comme m'a dit cette personne-là, attention, je ne vise personne, quoi que ce soit. Moi, ma femme vient d'un milieu très riche, moi, je viens d'un milieu très pauvre. Alors voilà. Donc,
faut tout voilà. Pour faire un monde.
Ça m'intéresse beaucoup.
Je pense qu'en fait, je pense savoir de quoi ce monsieur parlait, et peut-être que je peux me tromper. On voit depuis. 2 ans arriver des investisseurs avec une capacité d'achat qui est largement supérieure à ce qu'on a pu connaître avant. La problématique que ça pose, après chacun est libre d'acheter ce qu'il veut quand il a les moyens, la problématique que ça pose sur le fait de faire venir des super riches, comme vous les appelez, sur un territoire, c'est que, on le disait au début, vous augmentez le nombre de personnes à très très fort portefeuille susceptibles de venir investir sur ce territoire. Et c'est nous le danger qu'on y voit, c'est surtout celui-là. C'est-à-dire que plus on vise une clientèle luxueuse sur un territoire, plus on est susceptible que cette clientèle luxueuse dise « Ah bah, c'est sympa, moi je vais aussi acheter, je vais aussi investir ici, d'autant plus qu'en plus il y a mes copains qui viennent en vacances. » et on peut très très facilement perdre la main sur les quelques actions qu'on puisse mettre en place pour protéger ce qu'on pouvait en termes de logement, parce que là on explose l'offre, quoi. Enfin, la demande est tellement forte en termes de montant que là on peut plus batailler, c'est sûr. Donc oui, il y a des gros investisseurs qui sont arrivés récemment sur l'île, pour répondre à votre question.
Est-ce que justement une des solutions possibles dans l'histoire du statut des îles et de ces petits territoires limités, parce que je pense que ça touche aussi les villages de montagne, je pense que c'est un peu la même problématique. Eh bien, est-ce que une des solutions, c'est pas de se battre tous ensemble pour que sur l'île, eh bien, on ne puisse pas acheter de trop grands terrains. Ça permet à tout le monde d'acheter du terrain, de construire ou d'acheter sa petite maison. Ça ne met personne, ça ne parque personne, ni les très riches, ni les pauvres. Ça permettrait peut-être de réguler justement cette, je trouve pas le mot, mais ce sont des. Quand on parle d'investisseurs, on parle là de promoteurs. Hein, donc, on parle de quelque chose qui est extrêmement dangereux pour les petits territoires, et puis qui ne résoudra absolument pas le problème du logement, puisque l'idée du logement qu'on a tous, qu'on soit résident secondaire ou permanent sur l'île, c'est la petite maison avec un jardin. Et ça, c'est peut-être une idée qu'il faut changer, mais en même temps, c'est quelque chose qui contribue à notre mode d'habitat et à notre mode de vivre ensemble. Donc, créer des endroits de parkage, c'est sûrement pas la solution.
Rien à redire à cette idée excellente, Pascal.
Parce que, juste rajouter ça, il est évident que vivre à l'année à l'Île-Dieu, c'est magnifique, mais ça comporte aussi son lot de contraintes. Hein. On regarde nos enfants partir en face, enfin, il y a plein de choses. On subit les tempêtes, on subit les aléas, on subit les surcoûts globales dans son caddie et absolument partout. Ce qui amène les gens à rester ici ou à venir s'installer ici, c'est un cadre de vie. Donc il faut aussi qu'on leur laisse ce cadre de vie. Si c'est pour effectivement être parqué, je suis pas persuadé que les gens s'y retrouvent, quoi. Il faut qu'on puisse aussi avoir certains avantages, quoi.
Oui, en fait, moi, je voulais prendre la parole pour moi, il me semble important de resituer toutes ces questions qu'on a abordées jusqu'à maintenant dans l'idée de qu'est-ce que c'est le développement qu'on souhaite, que ce soit à l'Île-Dieu ou ailleurs, mais enfin à l'Île-Dieu, puisqu'on est là. À l'Île-Dieu, effectivement, est-ce qu'on veut poursuivre dans une stratégie inconsciente ou non volontaire, mais si on laisse faire, c'est comme si on était en train de laisser faire volontairement quelque chose. Est-ce qu'on va vers un modèle touristique, un modèle de dépendance totale de l'île à des revenus qui viennent de façon très sporadique, comme dans tous les pays du tiers-monde ? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut aller vers une forme de dépendance qui nous amène à une tiers-mondialisation, en quelque sorte, que ce soit pour le logement, que ce soit pour le type d'emploi ? Est-ce qu'on veut être des domestiques pour des gens qui viennent une fois par an ? Je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas que les gens soient touristes. J'ai moi-même été touriste un petit peu dans ma vie. J'ai arrêté assez tôt, hein, parce que en fait, je me suis rendu compte que c'était destructeur. Bien souvent, des équilibres locaux. équilibre en termes de population, déséquilibre en termes d'économie, disparition d'activités pérennes du secteur primaire notamment, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le tourisme se développe, on a effectivement une disparition en même temps, en parallèle, des activités agricoles et malheureusement en ce moment aussi de la pêche. Donc du coup, ça fait une économie complètement déséquilibrée avec insuffisamment d'emplois et de travail dans le secteur primaire. Donc la création de richesses devient uniquement fondée sur le tourisme, sur le service. Or, est-ce que c'est ça qu'on veut ? Voilà, c'est une question que je pose. Mais on peut constater au niveau mondial que le développement trop important du tourisme entraîne des déséquilibres qui sont destructeurs. Donc voilà, nous sommes tous ici, nous pouvons contribuer à soutenir les activités culturelles, les activités agricoles, les activités de pêche, les activités qui sont pérennes à l'année. Pour ça, il faut que les jeunes et moins jeunes, parce que bon, pour moi, tous ceux qui sont en dessous de 60 ans sont jeunes, mais bon, voilà. Voilà, bon, mais il faut donc que tous ceux qui font vivre l'île au sens vie, puissent, c'est-à-dire il y a des enfants, une vie sociale développée, une vie créative, puissent rester. Voilà, donc je soutiens complètement et je vais adhérer à votre association. J'aurais déjà dû le faire, mais je ne l'ai pas encore fait.
C'est pas grave, mais il est encore temps de le faire, mais c'est une question évidemment très importante et... C'est ce que je disais tout à l'heure sur la vision sur le long terme et les emplois de demain, parce qu'effectivement, on peut parler des maisons, mais on peut aussi parler des possibilités d'emploi de demain. Il est évident qu'actuellement, il y a quelque chose d'assez dramatique, et c'est le fatalisme. Et le fatalisme, c'est très simple, parce que tout le monde se dit « c'est comme ça ». Et ça permet de pas plus se poser de questions, en fait. C'est comme ça, c'est la triste destinée de l'île-Dieu. Alors ça, on le subit tout le temps, quoi, cette espèce de fatalisme, cette espèce d'impossibilité d'imaginer, d'inventer quelque chose d'autre. C'est quand même fou, on est assez intelligent et assez performant pour pouvoir imaginer autre chose. Est-ce que la population de l'île-Dieu, son avenir, c'est d'être dans un musée ? À regarder des films en noir et blanc et des photos des populations locales, des enfants, des marins avec des bérets et nanani. Moi, j'en ai ras-le-bol des musées, de la nostalgie, en fait. Parce que nos gamins, ils sont vivants. Ils sont vivants et on est en train de les foutre dans des musées. Donc ça, on les fout dans des musées par manque d'imagination et parce que c'est très simple, parce que ça permet de ne pas chercher plus loin et de continuer à aller dans ce sens-là, qui marche encore, et c'est très bien. Et puis, comme d'habitude, l'humanité, au pied du mur, va se dire « Merde, on a fait une connerie ». Donc, en fait, il faut peut-être anticiper un petit peu les choses et arrêter de foutre les gens dans des musées. Voilà.
Bonjour. Alors, moi, je suis touriste, hein, désolé. Mais je suis au camping, donc peut-être que c'est mieux. Voilà, donc vous parliez des solutions, enfin vous parliez par exemple du notaire qui fait de la vente interactive et du fait que ça serait bien qu'il arrête. Mais en même temps, si vous dites que l'île est de plus en plus convoitée par les super riches, je pense que, enfin, ça m'a l'air d'être des vœux pieux. Et du coup, j'aimerais revenir sur la question des logements sociaux, parce que si vous dites que l'île, elle est à 5% de logements sociaux, ça veut dire qu'elle est loin en dessous du quota, enfin de la législation. Ça veut dire que la municipalité paye des amendes, j'imagine. Et en fait, ça m'étonne parce que j'ai l'impression qu'il y a une vision. Non ?
On n'est pas une intercommunalité. On est l'Île-Dieu, c'est une commune. Mais oui, vas-y, continue ta question.
Oui, j'ai l'impression qu'il y a une vision du logement social qui est un peu les logements sociaux des années 60, parce que moi, j'habite en région parisienne et je travaille à Sarcelles. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu cette vision-là, quoi, des tours immenses, des conditions de vie pas forcément terribles. Donc moi, étant région parisienne, j'habite aussi un logement social et j'en suis très contente parce que je suis pas pauvre. Donc j'étais très surprise d'avoir accès à un logement social, mais je m'estime pas pauvre, je suis enseignante. Et je suis très contente d'avoir eu accès à ça parce que je vis bien, je vis décemment, alors qu'avant d'y avoir accès, j'étais dans un logement qui était limite salubre. Et donc peut-être qu'il y a une vision des choses à changer aussi par rapport à ça, parce que quand vous dites qu'il y a des solutions qui se font, par exemple un emploi, un logement, bon bah si c'est pour être logé d'avoir juste une chambre chez son employeur, c'est bien, hein, mais c'est pas forcément la panacée. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'on peut vivre en logement social et être contente de ce logement, même si évidemment, comme tout le monde, j'aimerais vivre dans un pavillon et avoir un jardin. Mais ce que j'ai, c'est déjà très bien, j'ai de la place et voilà, je pense que ça peut être malgré tout une solution.
Alors, effectivement, on est passé un peu vite sur cette question de logement, c'est pour ça que je voulais revenir dessus et je n'ai pas dû le faire correctement. Il n'y a absolument aucune honte à être en logement social, au contraire. Nous, en fait, dans le fait de ne compter que sur la construction de logement social, voire logement social intermédiaire, et donc d'étendre le nombre de gens qui doivent pouvoir avoir accès à du logement social, là où ça pose problème, selon nous, c'est qu'au prix actuel du mètre carré, à ce que ça va coûter en préemption si on ne fait rien pour pouvoir faciliter la préemption à moindre coût pour une mairie, etc., pour que les opérations soient viables dans le temps. Alors peut-être aujourd'hui, c'est encore faisable, mais mettons dans 5 ans, je ne sais pas comment ils vont faire. Mais on sera obligé d'aller dans du logement social ultra densifié, parce que ça aura coûté trop cher. Enfin, le logement social, ça implique aussi de payer la construction. La construction à 4000 euros le mètre carré sur un terrain qui en a coûté 150 euros le mètre carré. Il y a un moment où alors on fait des taxes gigantesques pour la totalité des habitants supportent le coût pour la municipalité de ce type de programme, ou alors on densifie en faisant des choses qui deviennent plus trop habitables. En fait, dans un lieu où dans une commune qui peut avoir accès à du foncier très peu cher et avec un prix de construction normal, c'est relativement facile de faire du logement social. Faire du logement social à Lille-Dieu, c'est déjà compliqué. Ça va le devenir de plus en plus. Et c'est ça qui nous interpelle. Et au-delà de ça, le fait d'imaginer que le logement social deviendrait l'unique solution, alors sociale ou aidée ou lotissement, etc., ça a un effet... Alors ça a deux effets qui sont dangereux. Le premier, c'est que on compte uniquement sur la construction pour loger ses habitants à l'année. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup construire. Ça veut dire qu'il faut construire sur des zones qui deviennent, enfin qui sont plus des zones dédiées à la construction au bout d'un moment, parce qu'il y a un moment c'est plein. On a quelques dents creuses, on peut encore trouver des terrains, mais dans le temps, il y a un moment ça fonctionne plus forcément, si on voit un petit peu à moyen ou à long terme. La deuxième chose, c'est que du coup, on se retrouve avec des centres-bourgs complètement morts. C'est-à-dire que si plus personne peut vivre sur le port parce qu'ils ne peuvent plus acheter sur le port ou à Saint-Sauveur, etc., que tout le monde vit dans des lotissements, je parle pas dans demain ou après-demain, hein, je parle dans 5, 10 ans, etc., se retrouver avec des centres morts, c'est malheureux en fait, parce que c'est des gens qui sortent plus au café le soir, qui vont plus forcément aller faire leurs courses à la petite épicerie ou à la boulangerie, etc. Enfin, il faut garder de la vie dans nos centres historiques. C'est pas valable que pour Lille-Dieu, ça, hein. C'est valable pour n'importe quelle ville du continent. Si on sort tout le monde des cités historiques et qu'on les met dans des cités dortoirs, au-delà du nombre de kilomètres qu'il faut se taper en bagnole pour aller faire les tâches de la vie quotidienne, il y a un côté qui est dangereux.
Pour compléter ton propos, là actuellement, il y a 3 lotissements en cours. Enfin, il y en a plus, mais 3 lotissements là qui sont presque sur stop. Il y a un lotissement à Impasse des Rieux. Donc, Impasse des Rieux, c'est en centre-bourg, comme tu le disais, pour pouvoir vivifier un peu le centre-bourg de Saint-Sauveur. Il y a 10 logements prévus. Les appels d'offres ont été infructueux. Ça fait 3 ans qu'on est sur stop complet. Normalement, il aurait dû sortir de terre, là. On est vraiment empêché, la mairie, de sortir des lotissements comme ça. Il y a aussi la Tonnelle. Parce qu'en fait, les appels d'offres sont infructueux. Ça veut dire que le prix ne répond pas. Soit ils ne répondent pas, soit le prix est complètement, mais 3 fois ce qu'on avait prévu. Donc en fait, voilà, on est dans le mur, quoi. C'est ce que vous disiez. Vous expliquez une situation où on est vraiment face à un mur. Il y a autrement un autre lotissement qui va se construire. Enfin, normalement, à la Tonnelle, il y a 22 lots. Et puis aussi, lotissement de la Chironnière, il y a 14 lots. Mais comme tu le dis, Roxane, tout à fait, je suis tout à fait d'accord, c'est à tout le monde de faire des efforts, c'est pas qu'à la mairie. Et on va y arriver tous ensemble, quoi. Il faut que les îlets, les habitants permanents, puissent louer. Parce que là, il y a quand même 200... Pardon, hein, mais il y a 250 Airbnb à Lille-Dieu aujourd'hui. 250. C'est plus maintenant.
Bon, 418 annonces actives voilà. Au mois de juillet.
Si on arrête ces Airbnb, ça y est, il n'y a plus de problème de logement. Il faut que tout le monde en soit conscient. Donc,
Et puis alors attention, hein, 418 annonces Airbnb, ça ne comptabilise pas le nombre de gens qui louent sans être officiellement déclarés, voilà. etc. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, c'est pas interdit. Hein. Enfin, je veux dire, les gens, quelque part, ont raison. Hein. C'est plus intéressant fiscalement, ça rapporte plus d'argent. Enfin, tout le système fait en sorte qu'on vous encourage, enfin, vous, c'est un vous général, à louer en location saisonnière. Et je vais avoir, du coup, une intervention, une demande de question, au fond, chez Anne et Séverine. C'est pour rebondir. C'est l'office qui demande à intervenir, s'il te plaît. Parce que sur cette question, je pense que la directrice de l'office de tourisme qui est ici, pas la directrice, mais la personne en charge des taxes de séjour, va pouvoir nous répondre mieux
que moi. Bonjour à tous. Donc, je suis Séverine, en charge de la taxe de séjour sur le territoire de l'Île-Dieu. Entre Airbnb, Abritel, OmniDays, on recense 896 adresses sur ces sites de plateforme sur l'Île-Dieu, qui correspondent à 2900 lignes de location de taxes de séjour reversées par les plateformes.
Bon, je crois qu'on voit l'importance du sujet, effectivement. Madame,
j'aurais voulu revenir un instant sur les gros investisseurs dont vous avez parlé. Depuis 2 ans, il y a donc de gros investisseurs, ces gros portefeuilles. Que savez-vous de ces personnes ? Est-ce que ce sont des personnes qui viennent, qui ne connaissent pas du tout l'Île-Dieu ? Ou bien ce sont des personnes qui pourraient avoir une idée pour l'Île-Dieu, qui pourraient être des partenaires à votre projet, qui sont concernés par l'Île-Dieu, ou bien ce sont des gens qui viennent d'ailleurs et que veulent-ils faire ici? Ils sont propriétaires pourquoi?
Alors, je vais botter en touche sur cette question pour la simple et bonne raison que, comme on le disait au début, on essaye de pas monter les populations contre les autres. Autant, par contre, effectivement, il faut être conscient que certaines pratiques peuvent être préjudiciables pour le territoire. Le fait de voir arriver des super investisseurs, si c'est le cas, sur un territoire, c'est dangereux. On l'a expliqué pourquoi. Après, tout ce qui est sur les rumeurs de qui fait quoi, etc. Là-dessus, nous, on ne s'engage pas parce que c'est des informations qui sont très difficiles à vérifier. Et on tient vraiment à vérifier la totalité des informations qu'on diffuse. Donc, c'est vraiment très compliqué de répondre à cette question. Il faut... Je ne sais pas, du coup, de quel super investisseur on parle. Parce que si on parle de super investissement touristique, c'est pas des personnes qu'on connaît. Après, si on parle de personnes qui... veulent construire des logements à l'année, c'est des personnes avec qui on discute. Je sais pas trop en fait de quel type de super investissement vous parlez. Oui, enfin, je réagissais parce qu'on a vu en fait des transactions immobilières touristiques récemment qui ont été extrêmement hallucinantes, c'est-à-dire que c'est des montants qui n'avaient jamais été vus jusqu'à présent sur l'Île-Dieu. Voilà, c'est par rapport. Enfin, moi, je réagissais tout à l'heure à votre question, parce que je pense que c'est ça qui a pu interpeller la population, de voir qu'il y avait des biens qui se vendaient. Quand ça dépasse les plusieurs millions, forcément, les gens disent oh, quand même. Enfin, et voilà. Et donc, et c'était plus là-dessus que je réagissais tout à l'heure. Mais
pour revenir aux logements sociaux, est-ce qu'il a été étudié de créer des logements sociaux dans l'ancienne conserverie? Parce que là, il y a un local qui est quand même plein centre. Et autrement, oui. Je suis un peu surpris de la taille de la médiathèque dans un terrain qui aurait été vachement bien pour faire des logements sociaux en plein centre de Port-Joinville, qui ne me paraissait pas une...
Enfin, on aurait dû prendre un élu à la table. Parce que là, nous, en tant que lanceur d'alerte sur la promotion de...
J'avoue que c'est un peu choquant, quoi, cette médiathèque.
Je vois que M. Bourgery vient répondre à la question.
Bonjour, donc Michel Bourgery, je suis comme Carole élu, je suis en charge des finances et de la transition énergétique. Alors juste un petit point sur l'aspect, C'est l'usine à laquelle vous faites référence. Alors, c'est un bâtiment qui est très intéressant historiquement, qui est complètement pourri architecturalement et qui n'est absolument pas adapté à la production de logements. Pour tout un tas de raisons techniques dans lesquelles je vais pas, enfin, on peut y revenir séparément, mais je vais pas les développer, je vais pas les développer aujourd'hui. Donc c'est typiquement, et ne le prenez pas personnellement, c'est typiquement une fausse bonne idée. Bon, cela étant, ça n'empêche pas qu'il y a tout un projet de réhabilitation de cette structure et de la zone qui va autour, qui est en train de mobiliser des cabinets d'architectes, d'urbanisme, différents bureaux d'études, de façon à ce qu'on puisse proposer un ensemble de solutions qui soient à peu près cohérents, je dirais, dans l'ensemble et qui répondent aux différentes préoccupations, à la fois de l'animation du centre-ville, du logement, de la pérennité des commerces, enfin toutes questions légitimes qui ont été évoquées aujourd'hui. Il y avait un autre point sur lequel je voulais répondre, mais bon, la médiathèque, oui, effectivement, merci. Alors, la médiathèque, bon, c'est un projet qui est assez ancien. Elle correspond à une volonté de remettre la culture au service de la population, de rapprocher également différentes populations. Et il se trouve qu'à l'époque où ce projet a été étudié, bon, l'emplacement que vous connaissez, qui est au centre-ville, était tout à fait pertinent. C'est un projet dans lequel on a mis énormément d'intelligence et d'apport culturel. Et je pense que lorsque vous verrez ce qui est le résultat, parce que pour l'instant, bon, il y a quand même quelques parpaings, bon, c'est pas encore très extrêmement sympathique, mais ça avance quand même. Et je crois que, si vous voulez, l'investissement, et là on se projette exactement comme il a été dit tout à l'heure, on se projette pour l'avenir de la population, depuis le plus jeune âge jusqu'à l'âge le plus avancé. Et ça, c'est vraiment un truc qui fait du sens. Voilà, donc ceci n'est pas exclusif de cela. Ce projet de pôle culturel, d'ailleurs, c'est pas une médiathèque, c'est un pôle culturel au sens large. Il fait du sens globalement, de la même façon que toutes les réflexions sur le logement qui ont été évoquées aujourd'hui, elles font du sens globalement pour l'avenir de l'île à long terme. Voilà, je crois que ça répondait aux questions. Après, j'ai plein d'autres trucs à vous dire, mais je ne veux pas être le seul à monopoliser le micro.
Bonjour, j'ai assisté il y a plusieurs mois à la même réunion au casino. Et il avait été question à ce moment-là des problèmes de location à l'année, des locations saisonnières à visée touristique. Et est-ce que vous pouvez donner des chiffres à ce sujet? Parce que quand on vit à l'année sur l'île-Dieu, on voit que l'hiver, effectivement, puisqu'on est à plus de 60% de résidences secondaires, il y a quand même énormément de maisons fermées et qui ne sont pas louées. Et le problème, c'est d'arriver à trouver un système pour que la location à l'année devienne attrayante plutôt que de la location touristique uniquement, ce qui fait fermer les maisons 8 mois sur 12. Alors, je sais aussi qu'il y a une pratique qui consiste à louer à des gens qui ont besoin d'être là à l'année une partie de l'année pour les mettre dehors l'été pour faire de la location touristique. Ceci est illégal. Est-ce que ça continue et dans quelle proportion ?
Oui, ça continue, bien sûr. Et c'est une vieille pratique, effectivement, illégale, sauf si je ne m'abuse, si c'est pour des étudiants. Mais moi, je veux juste répondre là-dessus par rapport au fait que quand on a dénoncé que c'était illégal, cette pratique notamment, on s'est fait un petit peu taper dessus par des locataires, des jeunes îlets, qui nous disaient « Mais non, mais si vous dénoncez ça et que même ça n'existe plus, on va être encore plus dans la merde. » C'est-à-dire qu'on en est à un tel point où même ces pratiques-là, c'est tout ce qui leur reste, quoi. Donc on devient presque leurs ennemis en dénonçant des choses qui sont illégales et qui sont pas cool, hein, parce que déménager au camping pendant 2 mois pour des gens qui travaillent et qui ont des enfants, et ça, il y en a quand même beaucoup, hein, faut bien le dire, c'est quand même pas extraordinaire. Donc ces pratiques continuent et quelque part elles sont aussi encouragées parce que les gens n'ont rien d'autre.
Il y a beaucoup de locations saisonnières sauvages. C'est-à-dire qu'ils sont en dehors des radars, on mesure pas complètement le nombre de locations saisonnières existant sur le territoire. Séverine parlait tout à l'heure du nombre de locations déclarées hein, qui sont sur les plateformes, qui payent leurs taxes de séjour, etc. Donc ce chiffre est déjà énorme. Mais après, le chiffre réel, non, ce serait très difficile à estimer. On aimerait bien le connaître.
La question, c'est là, dans un certain nombre de villes actuellement dans l'Ouest, on se met à place des locations pour des primo-accédants qui ne roulent pas sur l'or par l'intermédiaire des DRS. Qu'en est-il sur l'île 2 ? Il avait été question de ça aussi, de mettre en place des solutions d'achat avec donc un foncier qui est...
Le bail réel solidaire. Donc, je peux rapidement expliquer ce que c'est. Ça fait partie des leviers législatifs assez récents qui ont vu le jour. En gros, le concept, c'est de dissocier le bâti du foncier. Ça veut dire que le foncier reste la propriété d'un office foncier solidaire, qui est un organisme public, bien souvent. Dessus, on construit des maisons, ou le propriétaire construit sa maison, mais c'est plus rare. Et il est propriétaire des murs. Et donc, si jamais il revend, donc il y a une sorte de bail de location. Il faut tout, louer tous les mois son terrain. Quand on revend, en fait, on revend les murs à un autre accédant potentiel qui doit respecter un certain nombre de plafonds, de critères, notamment être habitant à l'année, ne pas dépasser un certain plafond de revenus, etc. Qu'est-ce qui est compliqué par rapport au bail réel solidaire ? Déjà, la première chose, c'est que pour pouvoir construire du bail réel solidaire, il faut du foncier, il faut des constructeurs, donc il faut avoir des entreprises qui répondent au marché public. Au-delà de ça, c'est assez complexe parce qu'en fait, le bail réel solidaire, quand il a été pensé, je pense qu'il a été conçu pour des villes. C'est-à-dire que imaginez un dispositif de bail réel solidaire sur un terrain de, mettons, 1000 mètres carrés, faire de l'immeuble et louer. C'est-à-dire que chaque propriétaire est propriétaire de son appartement. Du coup, la location du terrain, si elle est séparée entre plusieurs propriétaires, ça revient à pas grand-chose. C'est beaucoup plus compliqué d'imaginer un bail réel solidaire sur de la maison avec jardin. Parce que du coup, il y a une grosse superficie, enfin, il peut y avoir une superficie quand même assez importante de terrain, et il ne faut pas que le loyer soit trop cher. Parce que si on se retrouve avec 200 euros de par mois de location de terrain pour le propriétaire, ça ne revient plus du tout intéressant de faire du bail réel solidaire. Donc, la Vendée, là-dessus, est plutôt sympa, parce que ils veulent faire les mêmes tarifs de location partout, dont les lieux. Malgré le fait que le foncier va leur coûter très cher pour faire du bail réel solidaire ici. Il faut voir dans quelle mesure on pourra imaginer des petites maisons ou des petits appartements sur des terrains qui ont coûté relativement cher à l'Office foncier solidaire. Est-ce que c'est pérenne dans le temps ? Est-ce que c'est un dispositif qui va pouvoir vraiment être reproductible à plusieurs endroits de l'île, pour l'instant, on ne sait pas. On n'a pas beaucoup plus d'infos à ce niveau-là. Je regarde Carole pour savoir s'il y a eu plus d'infos. C'est en cours, quoi.
Bon. OK. Bon, on va prendre une dernière question avec madame qui attend déjà depuis un petit moment.
À tel point qu'on m'a piqué ma question.
Pardon.
Je voulais parler du BRS qui est en train de faire boule de neige sur le continent, aussi bien dans les métropoles que dans les villes de moyenne importance. C'est associé à un office social qui gère les ventes et les reventes et les achats. Ça existe en Angleterre, ça existe aux Pays-Bas, ça existe dans tout un tas d'autres pays. Donc alors, ça nous pend au bout du nez. Ça va être très bien, je pense.
Tout à fait.
Pour accéder au logement. Donc ça peut être très bien applicable aux maisons particulières et à Lille, certainement.
Alors, dissocier le bâti du foncier, ça paraît très intéressant. Ça permet de conserver les terrains dans le giron public et de s'assurer de leur destination dans le temps. C'est-à-dire que...
Donc, j'ai même pensé que le recensement que Lille faisait des terrains 100 mètres faisait partie de cette démarche-là. Peut-être avec illusion, je ne sais pas. Les terrains 100 mètres, il y en a certains qui pourraient se prêter à ce genre de choses.
Toujours est-il que ça fait partie des leviers intéressants et néanmoins qui devront être couplés avec soit une facilité de préemption, soit un levier qui permet de baisser le prix du mètre carré, parce que sans quoi, c'est pareil, ça va marcher un temps, et puis il y a un moment où l'Office foncier solidaire aura du mal à faire des dispositifs pas rentables, mais au moins amortissables.
Et ça comptera en plus, l'intérêt, c'est que ça compte dans les logements sociaux. Donc pour une mairie qui peut payer éventuellement des taxes, ça peut être très intéressant parce qu'elle remplit ses quotas de logements sociaux comme ça. Juste une petite remarque, sinon, Nantes, les grandes métropoles de l'Ouest commencent à le faire. Ils augmentent les taxes foncières de 20, voire 60%. Pourquoi l'Île-Dieu ne le fait-elle pas? Ah.
C'est peut-être pas l'association qui va vous répondre sur le sujet.
Bah, encore une fois.
C'est plus un sujet d'élus. Voilà, bon, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Les élus, on a eu la chance d'en avoir plusieurs. Ils étaient trois aujourd'hui. Donc, merci pour votre participation très active.
Merci à vous pour votre invitation.
Merci à tous. Merci Roxane, merci Clément.